La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un jeune Américain de 19 ans qui s'engage à la Croix-Rouge sur le front italien de la Première Guerre mondiale. Il part chercher l'aventure, mais il assiste à l'horreur. Il sera blessé lui-même, puis abandonné par l'infirmière qui le soigne et dont il est amoureux. Et c'est traumatisé qu'il reviendra aux États-Unis, ce pays qui ne l'intéresse plus guère. Car Ernest Hemingway, cette légende virile, était surtout un homme hanté par le spectre de la mort, comme nous l'avons vu lundi, avec Gérard de Cortanze, au cours d'une émission à réécouter sur notre site. Et la fêlure chez Hemingway, elle se traduit par la tentation toujours renouvelée de franchir de nouvelles limites, de transgresser le plus possible et de pousser la confrontation avec le néant jusqu'à la frontière du supportable. Cela se retrouve dans son œuvre et ses nouvelles en particulier, dont Redouane Aboudahab nous a parlé au cours de l'émission d'hier. Enfin demain, nous interrogerons la relation Hemingway-Fitzgerald dans le Paris de l'entre-deux-guerres et nous reviendrons sur le mythe de la bohème américaine et de ses conditions de vie dans la capitale française de l'époque. C'est Jean Bessière qui sera notre guide. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour tenter de définir l'art du roman d'Hemingway, en nous attardant sur deux romans en particulier que sont « Le soleil se lève aussi » et « Le vieil homme et la mer », nous sommes en compagnie de Clara Mallier, maîtresse de conférences en littérature américaine à l'université de Bordeaux-Montaigne, mais également traductrice, notamment de William Styron. Elle a écrit sur John Steinbeck, Jim Harrison, Jack London et aussi donc sur Hemingway, avec l'essai « The Sun Also Rises », roman holographique, publié aux presses universitaires de France en 2011. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Elle commence avec un extrait de ce roman dont le titre français est « Le soleil se lève aussi ».
Les deux bœufs se placèrent de profil pour résister au choc et le taureau encorna l'un des bœufs. « Ne regarde pas, » dit Jabrette. Elle regardait, fascinée. « Je l'ai vu, » dit-elle. « Je l'ai vu changer de corne, la gauche d'abord et puis la droite. » Le bœuf était par terre. Le cou allongé, la tête tordue, il restait là tel qu'il était tombé. Brusquement, le taureau le laissa pour courir vers l'autre bœuf qui était resté dans le fond. Le taureau le frappa légèrement, puis se détourna. Quand le troisième taureau arriva, les deux autres et le bœuf étaient ensemble, tête contre tête, les cornes pointées vers le nouveau venu. Puis le bœuf alla trouver le nouveau taureau, le calma et le ramena pour ne former qu'un seul troupeau. Nous descendîmes du mur avec la foule et prîmes une voiture pour nous rendre au café. Les autres arrivèrent une demi-heure plus tard. « C'est pas un métier d'être bœuf, » dit Robert Cohn. « Vous trouvez ?» dit Mike. « J'aurais cru que vous aimeriez beaucoup être bœuf. »« Que voulez-vous dire, Mike ? » ?»« Il mène une vie si tranquille. Il se contente de suivre, comme ça, tout le temps. » Nous étions gênés.
Gênant. Un extrait lu par Guillaume Gallienne. Bonjour Clara Mallier.
Bonjour.
Le soleil se lève aussi, c'est le deuxième roman de Hemingway, mais c'est peut-être le premier par ordre d'importance dans l'œuvre.
Oui, c'est ce que je pense du moins, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, même s'il est un petit peu moins connu en France qu'aux États-Unis.
Le premier s'appelait Torrent de printemps, il avait été publié seulement 6 mois plus tôt, et c'est une parodie, il n'avait pas vraiment marqué les esprits, alors que celui-là va être un succès. Très important.
Oui, un succès très important et une œuvre très influente sur toute la littérature, une grande partie de la littérature américaine qui a suivi.
Alors, il paraît en 1926. C'est un livre que Hemingway avait commencé en Espagne, poursuivi à Paris, terminé à Schruns, dans les Alpes autrichiennes. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, là, les protagonistes sont en Espagne. C'est donc la deuxième partie du livre, mais il faut peut-être raconter un petit peu ce qui se passe dans la première, et puis poser un petit peu les personnages. Alors, le personnage le plus important, c'est celui de Jake Barnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Clara Malmé?
Jake Barnes revient de la Première Guerre mondiale, blessé. C'est un homme impuissant. Il a perdu donc sa virilité au cours de la guerre. On l'apprend pas tout de suite dans le roman, un peu plus tard. Mais c'est un fait définitoire qui est très important dans l'œuvre.
C'est un symbole.
C'est un journaliste. C'est un symbole et c'est une réalité avant tout, vécue dans sa chair et qui conditionne l'histoire amoureuse impossible qu'il a avec Lady Brett Ashley, donc un autre personnage important, et histoire qui va conditionner beaucoup des événements de l'histoire du roman. Et donc il est journaliste américain à Paris. Il mène une vie sans doute très semblable à celle que menait Hemingway lui-même à Paris dans les années 1920.
Et donc il y a un troisième personnage important, c'est Robert Cohn, qui lui est quelqu'un disons d'un petit peu encombrant.
Oui, il représente la figure de l'homme sentimental à la virilité insuffisante qui n'obéit pas à ce qu'on appelle le code. Le code, c'est cette notion assez floue mais qui définit un ensemble d'éthiques et d'étiquettes, on va dire, à laquelle souscrivent la plupart des héros positifs de l'œuvre hemingwayenne. Et Robert Cohn est déficient par rapport à tous les critères de ce code. Il ne sait pas se tenir, il ne sait pas tenir l'alcool, ce qui est une faute grave aux yeux des personnages d'Hemingway et de l'auteur lui-même. Et il vit très mal son histoire avec la même Brett Ashley, qui se termine mal.
Tous les deux sont amoureux, en effet, voilà, de la même fille, qui est une femme assez séduisante,
ouais,
une femme forte, une femme qui tient pour le coup l'alcool, enfin en tous les cas qui boit beaucoup.
Ouais. Qui a les cheveux coupés courts, qui est
une flapper,
garçonne.
C'est une garçonne.
Ouais.
Et tous appartiennent donc à la fameuse génération perdue, ce terme inventé, ou plutôt relevé par Gertrude Stein, comme Hemingway l'a raconté dans son livre « Paris est une fête ».
Nous étions revenus du Canada et nous vivions dans la rue Notre-Dame-des-Champs et Miss Stein et moi étions encore bons amis lorsqu'elle fit sa remarque sur la génération perdue. Elle avait eu des ennuis avec l'allumage de la vieille Ford T qu'elle conduisait et le jeune homme qui travaillait au garage et s'occupait de sa voiture, un conscrit de 1918, n'avait pas pu faire le nécessaire ou n'avait pas voulu réparer en priorité la Ford de Miss Stein. De toute façon, il n'avait pas été sérieux et le patron l'avait sévèrement réprimandé après que Miss Stein eut manifesté son mécontentement. Le patron avait dit à son employé: vous êtes tous une génération perdue. C'est ce que vous êtes tous, dit Miss Stein. Vous autres jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue. Vraiment, dis-je? Vraiment, insista-t-elle. Vous ne respectez rien. Vous vous tuez à boire. Le jeune mécano avait-il bu, demandai-je? Bien sûr que non. M'avez-vous déjà vu ivre? Non, mais vos amis boivent. J'ai déjà été ivre, dis-je, mais je ne viens pas ici quand j'ai trop bu. Bien sûr que non, je n'ai pas dit ça. Le patron de ce garçon avait probablement déjà bu un coup de trop à 11h du matin. C'est pourquoi il faisait d'aussi belles phrases. Ne discutez pas avec moi, Hemingway, dit Miss Stein. Cela ne vous vaut rien. Vous êtes tous une génération perdue, exactement comme l'a dit le garagiste. All the time, let's go to the bridge. Her name is Margaret Ida.
Margaret Ida.
Her name is Margaret Ida.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Comment comprendre, Clara Malier, les propos de Gertrude Stein, qu'il donna d'ailleurs Hemingway en épitaphe de son roman « Vous êtes tous une génération perdue ».
En épigraphe, mais effectivement.
J'ai dit quoi ?
Épitaphe.
Ah, pardon.
Mais c'est assez approprié, hein, parce que cette utilisation qu'il fait de la citation de Stein représente... bien qu'elle ait été lue comme étant ironique par beaucoup de gens, mais elle représente la polarité dysphorique du roman. L'après-guerre, le désenchantement qui vient, les expériences traumatisantes qui empêchent de trouver du sens dans le monde et qui affectent toute cette génération.
Donc c'est la génération du désenchantement.
Oui, c'est comme ça qu'elle a été communément perçue.
Est-ce que cette jeunesse perdue, c'est le sujet, le propos de ce livre, Le soleil se lève aussi?
C'est une question à laquelle on peut répondre en confrontant les deux épigraphes, justement, parce qu'il y en a deux. Bien que j'ai constaté hier, à ma grande surprise, qu'elles ne figuraient pas dans la traduction française du livre. Donc bon, mais elles sont très connues, très importantes. La première, c'est cette citation de Stein, et la deuxième, c'est une citation du livre de l'Ecclésiaste, qui parle, dont est issu le titre du livre, et qui parle du fait que les générations passent, mais la terre subsiste toujours.
C'est le soleil se lève aussi et se couche, et il retourne d'où il était parti.
Exactement. Donc on a d'une part une temporalité irréversible, qui est celle de la génération perdue. La génération perdue qui a perdu ses valeurs, qui a perdu parfois des membres lors de la guerre, qui a perdu énormément de choses, alors que l'autre temporalité est cyclique. Elle est celle du renouvellement permanent et d'une sorte d'éternel présent que l'on sent notamment au contact de la nature. Il y a aussi une polarité urbaine, une polarité naturelle dans le roman.
Ça signifie que les membres de la génération perdue, ceux qui ont survécu à l'horreur de la guerre, finalement il faut relativiser, nous dirait Hemingway, qui en fait partie, leur douleur à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est un peu ça que la référence à l'Ecclésiaste peut-être signifie.
Oui, c'est... Est-ce que c'est une injonction à relativiser? Je ne sais pas, mais c'est en tout cas un moyen de se guérir, de se réparer, de trouver du réconfort au contact des choses immuables qui ne changent pas. Donc la nature et beaucoup le soleil, énormément de références au soleil, à la chaleur, qui ont un effet réparateur sur l'être.
Parce qu'il y a un côté comme ça, bonne santé chez Hemingway. Mmh. Certes, on a vécu des choses tragiques, mais c'est pas grave. Ça n'existe pas, c'est du passé.
C'est ça.
Alors, Hemingway a déclaré bien des années plus tard à son biographe Carlos Baker, « Je pensais certes que cette génération avait subi un rude coup, mais que je sois pendu si, à part les morts, les gueules cassées et les cas cliniques, nous étions perdus. » À aucun moment, lui n'a considéré qu'il était perdu, même à la fin de sa vie, même plus loin dans sa vie. Qu'il faisait partie de cette génération perdue. Finalement, il en parle comme s'il était extérieur à elle.
Je pense que s'il a été perdu, c'est sur un plan personnel. À la fin de sa vie, on attribue son suicide en partie au fait qu'il était gravement malade. On soupçonne en fait qu'il souffrait d'hémochromatose, une maladie avec un excès de fer dans le sang. Et par ailleurs, il y a tout ce dont vous avez parlé lors des précédentes émissions, les nombreux suicides dans sa famille, tout cet héritage très lourd qu'il portait. Je pense qu'il a peut-être vécu cette tragédie sur un plan plus individuel que collectif. Enfin, cela dit, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. Souvent, il dit une chose pour prendre le contrepoint de ce qu'on lui demande ou de ce qu'on lui dit. Et quand il dit que je sois pendu, si nous étions perdus, c'est peut-être juste aussi un mot d'esprit sur le moment.
Ouais. Alors, un homme peut être abattu, mais il n'est jamais vaincu. Dans la logique d'Hemingway, il y a beaucoup de ces personnages. Donc, dans le roman dont on parle, Le soleil se lève aussi, mais aussi dans d'autres romans, qui ont cette caractéristique-là. Qui est peut-être une caractéristique qu'on rapproche de l'Amérique d'ailleurs.
Oui, on le verra tout à l'heure à propos du Vieil homme et la mer, qui est un roman sur la fragilité d'un vieil homme qui est exposé aux éléments, aux forces de la nature, à la malchance, et qui en même temps se bat, continue à se battre. Et de façon générale, les héros d'Hemingway continuent à se battre.
Alors peut-être pas tous, parce que Robert Cohn, dont on parlait à l'instant, dont on a fait la présentation, lui, il est peut-être vraiment perdu.
Oui, c'est pour ça que je disais les héros d'Hemingway. Pas les personnages. Robert Cohn est un personnage hemingwayen, mais pas un héros hemingwayen. Ouais. Il est le contrepoint du héros hemingwayen.
Qu'est-ce qui fait qu'il est perdu, lui?
Le texte n'est pas très clair là-dessus. Ça se manifeste surtout, on le voit dans son manque de retenue et de tenue. Il ne sait pas contenir ses émotions. Il y a des allusions pas très plaisantes dans le roman à sa judaïté.
Oui, c'est vrai.
Il y a un certain nombre de remarques.
Vous pensez qu'il y a un fond d'antisémitisme chez
Oui, je pense plus culturel que vraiment vécu d'une façon personnelle avec une conviction. Mais enfin, c'est présent. Il y a des remarques homophobes aussi. Tout ça, ça fait partie un petit peu d'un air du temps. Je pense pas que ce soit des convictions fortes chez lui, mais c'est présent.
Ouais. Alors, c'est de la peinture d'un milieu aussi, cette première partie de Le Soleil se lève aussi, ce milieu des expatriés américains en Europe dans les années 20. On en parlera demain avec Jean Bessière. Mais on peut dire un mot quand même, c'est le rapport que semble avoir alors soit Hemingway, soit son personnage de Barnes avec ce milieu-là. On a l'impression qu'il en a un peu horreur. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Quel rapport a-t-il finalement avec cette génération perdue? C'est assez ambivalent.
Oui, mais alors je n'ai pas du tout le sentiment qu'il en a horreur. J'ai le sentiment au contraire qu'il aimait beaucoup être dans ce milieu de gens globalement assez cultivés, assez argentés, pour certains oisifs, et qu'il fleurissait dans ce milieu-là. Par contre, il y a des individus contre lesquels il avait une dent, et on a souvent dit que c'était, pour la plupart, des gens qu'il avait aidés d'une manière ou d'une autre. Oui. Il avait du mal à accepter qu'on puisse l'aider, surtout quand ça concernait l'écriture. Donc ceux qui ont eu le malheur de relire ses manuscrits, de lui apporter de précieux conseils, etc., l'ont souvent payé cher par la suite.
Oui. Mais c'est vrai que je pensais au personnage de Robert Cohn, qui est quand même une espèce de parangon de l'américain, un peu parasite peut-être, qu'il semblait ne pas tellement aimer.
Oui, oui,
c'est
absolument.
En tout cas l'impression qu'on a à la lecture. Des auteurs sur France Culture. Alors entrons un peu avec vous, Clara Mallier, dans l'art du roman de Hemingway. Vous dites que ce roman, Le Soleil se lève aussi, c'est un roman tout bonnement révolutionnaire, mais simplement ça ne se voit pas beaucoup. Et s'il est révolutionnaire, c'est du point de vue de sa représentation de la conscience. Alors là, vous nous donnez envie d'en savoir plus, parce que c'est a priori justement pas tellement ce qu'on attend de la part d'Hemingway, qui semble être un écrivain qui n'est pas un écrivain de l'intériorité des personnages.
Oui.
Pourquoi est-ce que pour vous, c'est une lecture qui vous semble fausse ?
Eh bien parce que c'est bel et bien un écrivain de la conscience, mais la conscience n'étant pas conçue comme vie intérieure. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des écrivains qui l'ont précédé, il ne représente pas la vie intérieure par le biais des sentiments et des pensées, des émotions, mais par le biais de ce que le personnage voit. Et ce qui permet au lecteur d'entrer en contact avec la conscience du personnage d'une manière tout à fait différente de ce qui est le cas dans des romans qui sont psychologiquement plus fouillés. Donc c'est bel et bien une représentation novatrice de l'intériorité, mais qui n'est pas psychologique.
Vous dites que c'est un roman qui représente la conscience sous la forme de son intentionnalité.
Oui. Alors ça, c'est un vocable qui vient de la phénoménologie. C'est le fait que l'on dit... plusieurs philosophes ont dit que toute conscience est conscience de quelque chose. La conscience du sujet hemingwayen est perçue ainsi, à travers les objets qu'elle vise, dans cette tension, dans son rapport avec le réel qui l'entoure. Et ça se voit notamment avec des nombreux adverbes de lieu, c'est-à-dire que tout ce qui est décrit est situé spatialement par rapport au personnage focal. C'est par ce type de technique qu'il représente la conscience.
Autrement dit, chaque action de chaque personnage représente tout bonnement son intériorité, et c'est pas la peine de dire le personnage pensa, le personnage se dit, pour simplement qu'on ressente exactement oui. ce que ce personnage pense et se dit.
Oui, c'est ça. Alors c'est le cas notamment parce que là il s'agit d'un récit à la première personne. Parce que dans un récit à la troisième personne, ce type de description très factuelle et neutre des actions du personnage a été apparenté à ce qu'on appelle une écriture behavioriste, où on n'a aucun accès à l'intériorité du personnage. C'est l'emploi du récit à la première personne, ce qui est le cas dans ce roman, mais aussi dans L'Adieu aux armes, son roman suivant, qui fait que tout ce qui est mentionné par le narrateur personnage devient un moyen d'accéder à son intériorité pour le lecteur.
On peut peut-être replacer ça un peu dans l'histoire de la littérature, qui va du 19e réaliste, où on est à l'inverse de ça, jusqu'à C'est une rupture d'ailleurs, jusqu'à la rupture que propose Hemingway, en passant par Virginia Woolf. Quelle histoire on peut faire de tout ça?
Oui, il y a une grande rupture qui est qu'au 19e, on avait une sorte de confiance dans la possibilité de représenter le réel. Donc ça a donné le roman réaliste sous ses nombreuses formes. Et petit à petit, au tournant du 20e siècle, cette confiance s'est perdue. Et on en est arrivé, beaucoup d'auteurs ont suivi le même chemin, quoique de manière très différente, à estimer que la seule chose que l'on pouvait représenter de manière réaliste, c'était la subjectivité. Et alors, vous parliez de Virginia Woolf, elle est contemporaine d'Hemingway, en fait. Son roman Mrs. Dalloway paraît en 1922, c'est-à-dire 3 ans avant Le Soleil se lève aussi.
Elle est un peu plus âgée.
Elle est un petit peu plus âgée et elle choisit un chemin radicalement différent, c'est-à-dire qu'elle représente l'intériorité de manière très fouillée, très détaillée, vraiment avec un luxe de détails, de métaphores, etc. Mais tous les deux ont pour point commun de s'éloigner d'une représentation que l'on pourrait qualifier d'objective du réel.
Mais est-ce qu'il avait lu, est-ce qu'il avait connaissance de Virginia Woolf, est-ce qu'il avait lu Proust aussi?
Oui. Il ne les tenait pas en grande estime. Il était, notamment Woolf, il a parlé d'elle avec une certaine condescendance, peut-être parce qu'il sentait que c'était un auteur important, comme je le disais tout à l'heure, ça joue beaucoup. Mais elle aussi, elle a parlé d'Hemingway en disant que ses personnages étaient plats comme du carton. Donc il y avait une sorte de rivalité de part et d'autre.
Qui tient de l'incompréhension, parce que quand même ce sont des écrivains qui sont de grands écrivains et qui devraient, évidemment ils ne sont pas obligés d'accepter telle quelle la proposition de l'autre, mais enfin ils devraient au moins la reconnaître. Est-ce que peut-être ne se comprenaient-ils pas?
Oui, alors ça tient sans doute en partie de l'incompréhension, en partie de la rivalité, pour Hemingway en tout cas, pour Woolf je ne me prononcerai pas, et en partie du manque de recul, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça en même temps, à la même époque. Et ils étaient tous les deux dans des démarches radicalement novatrices. C'est peut-être difficile d'être à ce point novateur tout en ayant du recul sur ce qui est en train de se faire de tout aussi novateur et très différent, dans le même moment, dans un autre pays, enfin, c'est peut-être pas évident.
Et pourquoi ne reconnaît-on pas ce rôle de grand novateur à Hemingway dans l'histoire de la littérature mondiale?
Il a été tout à fait reconnu, simplement pas précisément pour ça. Il a été reconnu surtout pour l'écriture behavioriste dont je vous parlais. Là, oui, alors là, tout le monde le cite pour ça. Et puis pour son accumulation de détails factuels, une écriture très proche du, très concrète et très proche des sens. Pour tout ça, il a été très célébré. Et pour son style, sans arrêt, on parle de son style et de son influence. Simplement, sans toujours expliquer en quoi ce style est très novateur.
Il est toujours considéré comme moins sophistiqué que les autres.
Il est considéré comme une sorte de magicien qui écrit des phrases très très simples avec un pouvoir évocateur très fort.
Eh bien, j'étais très frappée par cette sorte de force un peu brute, par cette façon d'avancer à coups de poing dans ses récits. Plus tard, il a cherché à équilibrer son récit. Il avait lu très longuement et très attentivement, d'ailleurs, Flaubert et Stendhal. Et il cherchait à donner dans ses romans un équivalent de ce que pouvait être l'art de Flaubert et de Stendhal. Il pensait qu'il y avait réussi. Il pensait d'ailleurs qu'il les avait battus sur leur propre terrain. Il n'y a pas eu chez lui une réinvention du roman, comme chez Faulkner, par exemple. Et tout de même, il ne s'est pas contenté de morceaux de journalisme comme Dos Passos. Il me semble que c'est là qu'a été son originalité.
Peut-être reconnu la voix de Jean Paulhan qui évoquait l'originalité de l'écriture d'Hemingway, son rapport à Faulkner notamment. Qu'est-ce que vous en retenez
de cette remarque?
Par exemple, enfin de l'archive qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est la comparaison avec Faulkner est très intéressante puisqu'effectivement Faulkner est un auteur visiblement révolutionnaire. Ça se voit à chaque page, dans chaque phrase.
C'est trop voyant pour vous ?
Non, pas trop. Non. Mais c'est très voyant, on le voit tout de suite. Et chez Hemingway, il y a effectivement cette apparente simplicité. Mais une simplicité qui fait mystère. Et ça se voit beaucoup à travers tous les auteurs qui l'ont imité. Et souvent sans son génie. Et on se retrouve avec des phrases simples sans
profondeur. Oui, et notamment dans le roman noir, on a l'impression qu'on a beaucoup lu Hemingway et qu'on l'a repris souvent.
Oui, tout à fait. Mais lui, il y avait un enjeu esthétique très important dans sa démarche. Il disait notamment, très souvent, qu'il voulait créer plutôt que d'écrire. Et il a explicité ça de nombreuses façons. Enfin, il en a parlé à de nombreuses reprises. Et tout se joue dans ce qu'il entend par créer. En fait, le verbe anglais, c'est make. C'est encore plus simple. Il voulait fabriquer du paysage plutôt que le décrire. Et ce qui se passe, c'est ça. C'est comment est-ce qu'il le fabrique? Qu'est-ce qu'il entend par là? Et il y a pour ça tout un ensemble de techniques qui font que, à la lecture de ces paysages, ce que disent beaucoup de gens, c'est j'ai l'impression d'y être.
Alors, quelles techniques, par exemple?
Alors, il y a notamment le fait qu'il cherche à représenter très très précisément la séquence de mouvements et d'événements qui ont conduit à une émotion, plutôt que de décrire l'émotion elle-même. Et il dit que si cette séquence, il arrive à la représenter de manière pure, elle sera valable pour l'éternité. Et donc il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la représentation de la temporalité. Il reste au plus près du temps vécu par les personnages. Et ça, c'est très novateur. Le temps de ces récits est beaucoup plus lent que celui de beaucoup d'autres récits. Il y a un luxe de détails, en apparence inutile, en tout cas inutile pour faire avancer l'intrigue. Et cette gratuité du détail est ce qui permet de faire surgir une impression de réalisme temporel. Ça, c'est extrêmement novateur. Personne ne l'avait fait avant lui.
Alors, vous citez Barthes dans votre livre Clara Malier, qui disait que le plaisir du texte venait pour le lecteur de ce qui était connu. Le plaisir, c'est de retrouver ce qui est connu. Alors que la jouissance, qui est donc plus forte que le plaisir, vient de ce qui déstabilise le lecteur. Hemingway, où se trouve-t-il ? Dans le plaisir ou dans la jouissance ?
Alors, déjà, il se trouve très nettement dans les deux. Et la question est de savoir quel pôle on trouve le plus intéressant. D'un point de vue thématique, dans son œuvre, la jouissance, donc, qui est effectivement définie par Barthes comme une perte de soi, elle est présente à travers toutes les expériences de blessure, d'angoisse, elle est très récurrente. Et le plaisir est constamment exprimé, le plaisir de choses simples, le plaisir d'un bon vin, d'être assis au soleil, de pêcher des truites, etc. La question c'est, est-ce que, comme le dit Barthes, l'expérience de la jouissance serait ce qui est fort littérairement et l'expérience du plaisir serait banale? Je pense que ce qui fait la force d'Hemingway, c'est qu'il arrive à faire de l'expérience du plaisir, à la fois au niveau de l'histoire, mais aussi au niveau du plaisir textuel, quelque chose de très fort et de très nouveau. Et il le fait en convoquant l'expérience du lecteur, au lieu de décrire des choses de manière très précise. Ça se voit par exemple dans son utilisation des couleurs. Sa palette est extrêmement stéréotypée. Les toits sont rouges, la mer est bleue, le ciel aussi, les nuages sont blancs, les montagnes sont brunes, et ça revient toujours. Et ce sont des couleurs qu'il mentionne extrêmement souvent. Et cela a pour effet de convoquer l'expérience personnelle du lecteur, qui... En plus, en général, les adjectifs sont mentionnés de façon postposée, ce qui en anglais est assez rare, en français c'est courant. Mais au lieu de dire que la mer est bleue en disant « the sea, virgule, blue ». Et c'est tellement évident que la mer est bleue, pourquoi le mentionner? Pourquoi le mentionner en plus de façon postposée, donc après avoir parlé de la mer? Et en fait, ça invite le lecteur à se représenter des choses qu'il connaît, à apporter des expériences qu'il connaît dans son expérience de la lecture et à enrichir donc sa lecture de toute ce qu'on appelle son encyclopédie personnelle.
Donc c'est penser le texte par rapport au lecteur.
Oui, absolument.
Par rapport à l'effet que le lecteur va trouver
à son
dans
implication.
Le texte.
Ça crée une implication du lecteur qui est très active.
Il y a aussi une question de rapidité dans la prose de Hemingway, justement qui vient de cette juxtaposition et qui fait que la langue anglaise, alors dans la traduction c'est un petit peu différent, mais elle file à grande vitesse. Vous en parlez aussi quand vous dites qu'il a voulu substituer le « et » au « et » « est » pour que les choses comme ça ne s'enracinent pas.
Oui, effectivement. Est-ce que vous direz que donc la langue file à toute allure, c'est ça ? poème.
Il a voulu faire filer l'anglais comme sur une ligne de fuite. Il faut dire que l'anglais, mm-hmm. c'est aussi ce genre de langue qui, contrairement par exemple à l'allemand, est une langue qui, dans la description, fait avancer les choses très vite. Mais bon, c'est une hypothèse, hein. Peut-être que la vôtre.
Non, mais tout à fait. En fait, ce qui est important, c'est qu'il utilise énormément la coordination et très peu la subordination. Donc, sa langue avance étape par étape, un petit peu comme le temps réel. Alors que dans une langue avec beaucoup de subordination, comme chez des auteurs dont on a parlé, chez Wolff, chez Proust, l'esprit est sans cesse en train de se projeter vers l'avant, de revenir en arrière. On a une temporalité croisée très complexe. Chez Hemingway, la temporalité reste à ras des choses.
Oui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un rapport à la géographie ? C'est vrai que la géographie est très, très, très précisément décrite. On se balade dans les rues de Paris, dans le Montparnasse, du Select au Dôme. On peut vraiment refaire le trajet des personnages de The Sun Also Rises, le soleil se lève aussi. Quel effet ça produit, ça, selon vous, Clara Mallier ?
Ça produit un effet de réel d'abord par la mention des noms propres et un effet de familiarité avec le personnage parce qu'il n'explique jamais quels sont ces lieux. Et à cet égard, c'est très intéressant de comparer Le Soleil se lève aussi et Paris est une fête, dont vous allez parler demain, je crois, parce que dans Paris est une fête, qui n'est pas un roman, il donne davantage de précisions. Et il parle notamment d'un restaurant qui s'appelle Le Nègre Joyeux, qui est possédé par un homme, Monsieur Lavigne, et son épouse, Madame Lavigne. Et dans Paris est une fête, il explique tout ça. Dans Le Soleil se lève aussi, il dit « Nous allâmes chez Lavigne ». Et aucune précision. Dans le manuscrit, il avait bien précisé le restaurant Le Nègre Joyeux de Monsieur Lavigne. Et il a supprimé tout ça parce que le personnage lui-même, quand il pense à ce restaurant, ne va pas penser le nom du restaurant, le fait qu'il appartient à tel homme, etc. Donc il décrit les choses exactement comme le personnage pourrait y penser pour lui-même.
C'est une manière aussi d'intégrer encore le lecteur au groupe des personnages,
oui,
comme si le lecteur était un personnage
exactement.
Qui vivait aussi avec eux. Il a confié d'ailleurs à son ami le musicien Georges Anteil, sans géographie, sans arrière-plan, vous n'obtenez rien. Mmh. Et ça renvoie à sa manière de travailler. On sait qu'il était journaliste, qu'il a produit en tout cas des articles de journaux. C'est un petit peu comme Zola peut-être, une espèce de manière d'enquête qui doit être un préalable à la rédaction. Il y a ça aussi chez lui ?
Oui, mais une enquête moins documentée que chez Zola quand même.
C'est ce qu'il connaît déjà, disons.
Oui, c'est ce qu'il connaît déjà. Et puis en un sens, ces paysages par exemple sont... les paysages naturels, notamment, sont à la fois très précisément décrits et en même temps, ils ont un côté générique, universel. Et on les retrouve d'une œuvre à l'autre, qui représentent des paysages parfois américains, parfois européens. On retrouve le même sous-bois dans plusieurs textes. Et c'est assez intéressant de voir que c'est très précis, mais c'est universel en même temps.
Allez, on va continuer cette conversation avec vous sur le style de Hemingway, Clara Mallier. Ce sera après la chronique d'Alexis Broca.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour Alexis.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui du numéro de mai du Nouveau Magazine Littéraire. Il paraît demain et on y trouve notamment un grand dossier consacré à l'intelligence artificielle.
Voilà, nous avons décidé de réaliser ce grand dossier sur l'intelligence artificielle afin d'essayer d'y voir un peu clair dans le magma de prophéties et d'annonces fracassantes et souvent contradictoires d'ailleurs qui entourent cette technologie. En effet, vous le savez, l'intelligence artificielle, c'est d'abord une invention des romanciers de science-fiction, Philip K. Dick ou Dan Simmons notamment. Et aujourd'hui, ce n'est plus une invention, c'est une réalité.
On sait bien que les livres sont bien en avance.
Ils sont bien en avance sur
la
technologie,
réalité.
Très souvent. D'ailleurs, ça pose une question, est-ce que la technologie n'est pas en train de rattraper, voire de dépasser l'imagination des auteurs ? Mais je crois que cette question mériterait qu'on y consacre
un dossier,
voilà. Peut-être qu'on le réalisera un jour. En tout cas, là, ce qui nous intéressait, c'est justement de voir comment est-ce qu'un fantasme littéraire devient une réalité, puisqu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on ne le voit pas tous, mais elle aide les médecins à réaliser des diagnostics, elle aide les assureurs à établir des contrats, elle aide les ingénieurs à inventer des machines complexes, Elle traite les données que petits poussets rêveurs nous semons sur nos chemins. Et puis, comme vous l'avez vu, elle nous bat aux échecs et aux jeux de go grâce à des capacités prédictives qui vont si loin qu'elles finissent par nous apparaître comme de la créativité. Et on en est au point, en fait, où nous commençons, nous humains, à nourrir des complexes vis-à-vis des formidables capacités de ces intelligences artificielles. Et nous oublions, en fait, lorsque nous nourrissons ces complexes, que ces intelligences artificielles, eh bien, elles sont capables de nous battre aux échecs et aux jeux de go, mais après, elles ne rentrent pas chez elles pour se préparer un sandwich. Mmh. Elles en sont bien incapables.
Attendez la génération des robots, voilà. Alexis, vous verrez.
Mais en fait, la question est assez compliquée. Il y a une excellente bande dessinée, d'ailleurs, chez Delcourt, qui s'appelle Intelligence artificielle, miroir de nos vies, qui en parle. Ces intelligences artificielles, aussi performantes soient-elles, ne sont jamais que des instruments qui sont construits pour accomplir une tâche bien précise. Et en ce sens, elles sont très différentes de nos cerveaux qui ont des capacités d'adaptation infinies. Et pour rappeler un petit peu cette différence entre la pensée, ce qu'on appelle la pensée réflexe des machines et la pensée réflexive de l'homme, on a fait appel à quelques philosophes, je pense notamment à Jean-Michel Guénassier ou Patrice Bollon, et aussi à des spécialistes de l'intelligence artificielle qui ne donnent pas dans le discours prophétique, comme Jean-Louis Dessalles, qui est chercheur à Mintec. Et puis, on est allé aussi interroger des professionnels de la santé, des de la finance, qui se servent de ces intelligences artificielles et pour qu'ils nous expliquent ce que ça avait changé simplement dans leur métier.
Et donc il vous a paru important de revenir aux usages concrets de l'intelligence artificielle.
Bah oui, parce que c'est une façon d'éviter de tomber dans tous les discours contradictoires et dans tout le discours d'escorte qui accompagne cette technologie. En effet, d'un côté, vous avez les délires des technoprophètes de la Silicon Valley. D'un autre côté, vous avez l'attente et l'appréhension du grand public et on se demande un peu à quelle sauce l'intelligence artificielle cuisinera notre avenir. Est-ce qu'elle réalisera, par exemple, le rêve d'un écrivain qui s'appelle Ian Banks, qui met en scène dans un cycle de science-fiction qui s'appelle le cycle de la culture, des mondes qui sont régis par des intelligences artificielles bienveillantes? Est-ce qu'elle réalisera le cauchemar d'Orwell, c'est-à-dire une société où le passé pourra être écrit à l'infini grâce aux capacités des intelligences artificielles à produire des faux documents? Peut-être qu'elle exécutera le scénario Terminator, qui est prisé des prophètes californiens. Je pense à Raymond Kurzweil, le gourou de Google, qui nous annonce d'un air réjoui que les machines se réveilleront meilleures que nous dans tout domaine, et que, évidemment, leur saine et mathématique perfection ne toléreront pas très longtemps les humains et leurs erreurs. Alors, évidemment, ces scénarios, ils relèvent du rêve ou du cauchemar, et nous, à travers le dossier, on a voulu revenir à la réalité. On a voulu rappeler d'abord qu'à travers des services qu'on nous vend, comme de l'intelligence artificielle, il y a très souvent des milliers d'humains, de travailleurs du clic, qui viennent secourir ces intelligences artificielles qui sont parfois bien désarmées face aux questions que nous leur posons. Et on voulait rappeler aussi, c'était important, que tous ces scénarios qu'on produit sur l'intelligence artificielle, ils sont basés sur l'idée d'une intelligence artificielle qui est à notre image, qui est consciente d'elle-même. Mais c'est pas du tout ça, et ce que les chercheurs sérieux nous disent, c'est que cette intelligence artificielle consciente, elle a aucune chance d'advenir avec la technologie dont nous disposons. Peut-être adviendra-t-elle un jour, mais avec une machine qui sera aussi différente de nos ordinateurs que nos ordinateurs le sont des machines à vapeur, par exemple.
Bon, bah ça c'est rassurant si on est en train d'inventer la machine à vapeur. Tout cela et bien plus encore à retrouver dans les pages du nouveau magazine littéraire. Merci Alexis Broca. C'est une semaine consacrée à Ernest Hemingway que nous vous proposons dans la compagnie des auteurs. Nous sommes aujourd'hui avec Clara Mallier de l'Université Bordeaux-Montaigne pour évoquer l'art du roman d'Hemingway. En première partie, nous nous sommes appuyés sur Le soleil se lève aussi. Et nous parlons à présent de son célèbre livre Le vieil homme et la mer, dont voici un extrait lu par Guillaume Gallienne.
Tout à coup, avant même de voir l'inclination de la corde se modifier, le vieux sentit quelque chose de nouveau dans la tension de la ligne. Il pesa de toutes ses forces sur le fil. Lentement, régulièrement, la ligne montait. Soudain, l'océan se souleva en avant de la barque et le poisson apparut. Il n'en finissait pas de sortir. L'eau ruisselait le long de ses flancs. Il étincelait dans la lumière. Sa tête et son dos étaient violet foncé. Le soleil éclaira en plein ses larges rayures lilas. Il avait un nez très long, aussi long qu'une batte de baseball, et pointu comme une épée. Le poisson émergea tout entier, puis avec l'aisance d'un bon nageur, il replongea. Le vieux eut le temps d'apercevoir la grande queue en forme de faux qui s'enfonçait tandis que la ligne recommençait à galoper. Avec ses deux mains, le vieux s'efforçait de maintenir la ligne. « Moi, si j'étais lui, j'en foutrais un grand coup tout de suite et je tirerais jusqu'à temps que ça pète », pensa-t-il. « Dieu merci, ces bêtes-là, c'est pas aussi intelligent que les humains qui les tuent. Ça les empêche pas d'être meilleurs que les humains et plus malins dans un sens. » Le vieux avait rencontré des quantités d'espadons dans sa vie. Certains pesaient jusqu'à 500 kilos. Mais aujourd'hui, il est tout seul. Il a perdu la terre de vue et le voilà accroché à la plus grosse pièce qu'il ait jamais trouvée. On dirait qu'il a sauté rien que pour me montrer qu'il est grand, pensa le vieux. J'aimerais bien lui montrer à mon tour quelle espèce de bonhomme que je suis, moi. D'un autre côté, je voudrais que ce soit moi le poisson. C'est lui qui a tous les avantages. Moi, j'ai que ma volonté et ma cervelle.
Alors, il faut dire un peu dans quelles circonstances ce livre a été écrit, Clara Mallier. Hemingway avait à peine terminé « Au-delà du fleuve et sous les arbres » en 1950, livre qui pour le coup n'avait pas eu tellement de succès. Mmh. Et là, il enchaîne avec cette histoire du vieil homme et la mer. Ce sera son dernier roman.
Ce sera son dernier roman publié de son vivant. Mmh. Mmh.
1952, très grand succès. 5 millions de lecteurs qui se jettent en 48 heures, paraît-il, sur le numéro de Life, qui en publiait l'intégralité. Alors, ça a été une revanche quand même pour Ernest Hemingway, parce que c'était un moment de sa vie, la fin de sa vie, où on considérait qu'il était un petit peu fini comme écrivain.
Mmh. Oui, et puis il a obtenu le Pulitzer, il a obtenu le Nobel peu après, donc effectivement... C'est un point culminant de sa carrière.
Alors Philippe Jaworski a proposé une nouvelle traduction de cette célèbre histoire aux éditions Gallimard en 2017. C'est important de retraduire comme ça les chefs-d'œuvre de temps en temps. Oui, il résume ce roman en deux lignes. Un vieux pêcheur cubain, réputé malchanceux, attrape un jour un marlin d'une taille extraordinaire que les requins dévorent à belles dents pendant son retour au port. Tout est dit.
Absolument. Et c'est dire à quel point ce roman, qui a parfois été qualifié de longue nouvelle, est compact. Il y a une unité d'action, une unité de temps et une unité de lieu. C'est dire ça, c'est déjà dire qu'il a une portée tragique.
C'est une tragédie.
C'est une tragédie.
Alors c'est une histoire simple. Jaworski dit que c'est une histoire qui fait vœu de pauvreté. Une histoire inspirée d'un fait réel, il l'avait d'ailleurs évoqué dès 1936, cette histoire. Et c'est évidemment une fable, c'est évidemment une allégorie, on peut la lire de diverses manières. Clara Mallier, qu'est-ce qui vous retient ?
Ce qui me retient, c'est le fait que c'est une fable sur la finitude humaine, sur l'extrême fragilité de ce vieil homme qui est seul, exposé face aux éléments, face à ce poisson beaucoup plus puissant que lui, et qui est en même temps ingénieux. Donc c'est vraiment quelque chose sur à la fois la fragilité de l'homme et ses forces, que sont sa technique, son ingéniosité. Et ce qui est très beau, c'est le rapport du vieil homme au poisson, et aux animaux de façon générale. Il y a une très grande fraternité, le mot revient très souvent, et il se sent, il a l'impression qu'il réussit à le tuer par traîtrise. Il s'en veut de réussir à le tuer. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, cette lutte à mort est un hommage à la force du poisson, à sa majesté, et que l'acte de tuer n'est pas antinomique, mais au contraire synonyme de l'acte de vénérer et de rendre hommage. C'est ça qui est fort
dans cette histoire. C'est un
sacrifice. Ça pourrait être un sacrifice. Le vieil homme dit à un moment au poisson, je me fiche de savoir lequel de nous deux mourra. Donc tous deux s'exposent, l'enjeu est maximal pour les deux.
C'est peut-être aussi un livre sur l'espèce humaine au milieu des autres espèces.
Oui, absolument. Le vieil homme parle de nombreux animaux, donc des marsouins, des tortues, en commentant la fraternité qui existe entre eux. Mmh. En disant, les tortues ont le même cœur et les mêmes pieds et les mêmes mains que moi. Ils parlent de pieds et de mains, c'est un peu étonnant pour des tortues. Mais... Et en parlant de nombreux animaux, une fauvette aussi à un moment. Enfin, on sent qu'il ressent une très profonde proximité avec ces animaux.
est-ce qu'on peut faire une lecture écologiste de ce livre? Parce qu'on sait quand même que Hemingway est un chasseur, un amateur de corrida aussi, et puis un pêcheur. Quel est son rapport à la nature?
C'est un rapport à la nature qui, en un sens, n'est pas tellement dans l'air du temps de notre époque actuelle. On le voit notamment dans tout ce qu'il a écrit sur la corrida. On sait aujourd'hui la corrida est extrêmement critiquée. Je crois qu'elle perd aussi beaucoup de spectateurs par rapport à il y a encore 10 ans ou 20 ans. En ce sens-là, le rapport d'Hemingway au monde naturel est dépassé. Je veux dire, il faisait des safaris. Il y a tout un rapport d'exploitation, on pourrait dire, de la nature. Et en même temps, il y a quelque chose de très fort dans son rapport aux animaux qu'il tue. Dans ce que je disais à l'instant, le fait que ça n'exclut pas un profond respect et que, en un sens, se mesurer à eux, c'est leur rendre hommage. Et ça, c'est un type d'hommage. Alors, je pense que c'est difficilement compréhensible pour une pensée écologiste telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il a vraiment un rapport d'amour à la nature et aux bêtes.
Est-ce qu'on peut replacer ce récit dans une tradition du récit de chasse à la baleine blanche?
Tout à fait. Oui, absolument. Il a pas commenté, je crois, pas que je sache, l'intertextualité avec Moby Dick.
Oui, parce qu'on y pense tout de suite, évidemment.
Voilà. Et il l'a fait avec beaucoup d'autres auteurs, comme on l'entendait dans la citation tout à l'heure. Il s'est vanté d'avoir mis Tolstoï au tapis, d'avoir réussi tout ça, à rivaliser avec beaucoup d'auteurs. Je ne crois pas qu'il l'ait fait à propos de Melville. Mais enfin, l'affiliation semble incontestable.
Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit. Camarade, j'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus beau que toi. Allez, vas-y, tue-moi. Ça m'est égal lequel de nous deux qui tue l'autre. Qu'est-ce que je raconte, pensa-t-il. Et voilà que je déraille. Faut garder la tête froide, et endure ton mal comme un homme ou comme un poisson. La tête froide, dit-il d'une voix qu'il n'entendait plus qu'à peine. La tête froide. Deux fois encore, les cercles du poisson restèrent sans résultat. Je ne sais plus, pensa le vieil homme. Il avait été sur le point de s'évanouir chaque fois. Je ne sais plus, mais je vais essayer encore un coup. Il essaya encore un coup. Au moment où il retourna le poisson, il sentait venir la syncope. Le poisson se redressa, puis repartit d'une lente allure, sa grande queue godillant dans l'air. Je vais encore essayer, affirma le vieux, bien que ses mains fussent toutes molles et que ses yeux ne visent plus que par instant. Il essaya encore, même échec. Et voilà, pensa-t-il, la syncope arriva avant qu'il eût commencé. J'essaierai encore un coup.
Nouvel extrait du vieil homme et la mer, lu cette fois par Jean Topard. Qu'est-ce qu'il vous évoque cet extrait-là, Clara Mali?
Il m'évoque une chose qui ne concerne pas les thèmes dont nous avons parlé, mais qui est la tonalité des dialogues. En fait, cette traduction donc, de Jean Dutour, dont est extrait ce qu'on vient d'entendre, traduit les dialogues dans une tonalité assez familière et la traduction de Philippe Jaworski a changé ça, a remédié à cela, parce que dans le texte d'origine, les dialogues sont exprimés sur un ton qui n'évoque aucune classe sociale, qui est très une langue très simple, qui est la même pour les deux personnages, donc le vieil homme et le garçon, et qui contribue à l'aspect parabolique de l'œuvre. Et en entendant là cette traduction, ça me faisait penser à ça, que...
Parce que le jeune homme, le garçon, il a un rôle très important dans le respect qu'il montre à ce vieux pêcheur. Mmh. C'est la transmission aussi qui se joue dans ce texte-là.
Oui, bien sûr, c'est la transmission avec un rapport du père au fils, même si le garçon n'est pas le fils du vieil homme. Et c'est aussi la seule chose qu'a le vieil homme, en fait. Il est extrêmement pauvre. Il est tout seul, il ne peut même plus pêcher avec ce garçon parce que comme il a été déclaré malchanceux au bout de 84 jours où il n'a rien pêché, les parents du jeune garçon lui interdisent d'aller pêcher avec le vieil homme. Mais l'affection que lui porte ce jeune garçon, le fait qu'il soit auprès de lui quand il est à terre, il peut plus l'accompagner en mer, mais enfin il l'aide à porter son mât, ses affaires, ses filets, c'est ce que le vieil homme a pour le soutenir dans son entreprise face à l'immensité.
Et on retrouve aussi ce thème assez américain du « il faut continuer coûte que coûte ». Et c'est ça que le vieil homme transmet au jeune garçon.
Oui, tout à fait.
Il a été publié en 1953 aux éditions de Minuit, mais ce n'est pas tellement un roman qui a, enfin me semble-t-il, beaucoup infusé la littérature française. C'est un roman qui a été beaucoup lu, mais on ne retrouve pas vraiment d'équivalent dans la littérature française de ce livre. C'est votre avis aussi, Clara
Mallet ? Oui, tout à fait. Il faut dire que les thèmes sont très américains, ne serait-ce que le rapport à l'espace. Et à la nature, ce sont des choses qu'on ne trouve pas de cette manière-là dans la littérature française, pour plein de raisons.
Donc il ramène son poisson, ce vieil homme, mais ce qu'il en ramène, c'est juste l'arête, parce que le poisson a été dévoré comme ça par les requins. On est à l'os, pourrait-on dire, quand on arrive au port. D'ailleurs, en anglais, l'arête se dit bones, donc os. Est-ce que, finalement, c'est ça aussi que nous dit... Hemingway, qu'il faut être à l'os, comme sa littérature et son style est à l'os.
Oui, son style est à l'os, ça c'est certain. Dans le roman, c'est malheureux pour le vieil homme tout de même.
Oui, mais il y a une grandeur quand même d'être justement comme ça dans la pureté de l'arête qui reste sans sa chair. Il n'y a plus vraiment que l'essentiel là.
Oui, et qui témoigne quand même de cette pêche, c'est-à-dire le vieil homme ne pourra pas en retirer quoi que ce soit, notamment il ne pourra pas vendre la chair du poisson, mais tout le monde sait, tout le monde voit l'immensité du poisson qu'il a pêché. Donc ça c'est important.
Parce que le prestige compte peut-être plus que l'argent, l'os compte peut-être plus que la chair.
En tout cas, alors la précarité, la pauvreté du vieil homme est telle que je ne sais pas si on peut dire ça, mais oui, ça compte beaucoup, c'est certain. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les méchants du livre de Valens, ce sont les requins qui dévorent le poisson. Ça n'est pas le marlin lui-même, ce sont ces requins qui viennent tout gâcher sur la fin.
Et pourquoi ça vous intéresse en particulier ?
Parce que ça m'intéresse le fait que dans la lutte contre le marlin est vraiment perçu comme un frère et jamais comme un ennemi. Mais par contre, les requins qui arrivent pour le dévorer, une fois que le pêcheur a réussi à le tuer, eux, ce sont vraiment des ennemis. Et voilà, c'est...
Il n'y aurait pas l'idée que finalement, si ce poisson il avait été laissé dans son milieu naturel, au fond, il n'aurait pas changé le destin du pêcheur, puisque de toute façon, il revient avec simplement les arêtes, et qu'il aurait pu continuer à vivre. Est-ce que vous sentez ce sous-texte ou est-ce que pour vous, c'est complètement...
Ah si, si, si. D'ailleurs, le pêcheur le dit plusieurs fois, qu'il regrette d'avoir à tuer ce poisson, qu'il regrette de ne pas pouvoir le nourrir. Il ressent de la tristesse à un moment à l'idée que le poisson n'a rien à manger. Il a envie de lui donner à manger.
Pour revenir à la première partie de la conversation qu'on a eue ensemble, est-ce qu'on n'est pas là avec un roman qui n'est plus justement dans ce que vous avez décrit du rapport réaliste de Hemingway ? On est vraiment dans la fable, alors que tout le propos d'Hemingway semble avoir été de nous dire « Moi, la fable, ça n'est pas ça qui m'intéresse, je décris exactement, précisément, les actions des personnages.
» Oui, tout à fait. Et il y a un côté très fortement symbolique dans le retour du vieil homme qui porte son mât et qui le dépose plusieurs fois. Ça évoque la passion de façon très nette. Donc l'allégorie religieuse est très présente. Ça n'est pas tellement caractéristique, effectivement, de sa démarche.
L'allégorie religieuse.
Oui, la passion du Christ, vraiment, lors du retour au port, c'est frappant, mais c'est tellement visible que effectivement, on voit rarement ça dans son écriture. Des symboles aussi présents, c'est pas très courant.
Est-ce que c'est aussi la face immergée de l'iceberg qui compte dans ce livre-là ?
Bonne question, il faudrait que j'y réfléchisse. Je dirais moins que dans d'autres livres.
Moins que dans d'autres livres, c'est-à-dire que les choses nous sont davantage données ?
Oui, il me semble.
Il y a son livre « Les vertes collines d'Afrique » dans lequel Hemingway parle d'une quatrième, d'une cinquième dimension que l'on peut atteindre dans l'écriture. Ça signifie quoi ? Et est-ce que là, il l'a, selon vous, atteinte, cette cinquième, quatrième dimension ?
À mon sens, il l'atteint dans d'autres textes encore mieux. Mais effectivement, je pense que ça a trait avec ce dont je parlais tout à l'heure sur l'implication du lecteur. C'est-à-dire, il décrit des choses et le texte est très simple, peut paraître assez plat, mais il est fait pour organiser une implication du lecteur qui va donner du volume aux descriptions qui sinon pourraient rester plates. Et ça, effectivement, ce sont des dimensions multiples.
Vous vous souvenez de votre première lecture du Vieil homme et la mer? C'est arrivé quand? Est-ce que c'était pour votre travail ou est-ce que vous l'avez lu comme beaucoup adolescente?
Oui, je l'ai lu adolescente, mais ça ne m'a pas du tout marqué en fait à l'époque. Je me souviens beaucoup plus de ma première lecture de ses autres romans.
Pourtant, c'est a priori plus simple, justement comme message.
Oui, tout à fait. Enfin, bon, cela dit, j'avais trouvé ça fort, mais enfin, bon. Peut-être parce que ce ne sont pas des thèmes qui me parlent particulièrement, mais ce n'est pas une lecture qui m'a tellement marquée. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le relire à plusieurs époques. C'est un texte qui se lit et qui se relit avec plaisir.
Merci beaucoup, Clara Mallier. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux, Michèle de Montaigne. On vous doit le livre « The Sun Also Rises », roman holographique, publié au PUF en 2011. C'est la compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Garance Mazelier, Laurent Travagli, Chanal, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Anthony Thomasson. Demain, nous parlerons du Paris d'Hemingway dans les années 20 et 30. Ce sera avec Jean Bessière, mais tout de suite, c'est le moment de retrouver la poésie avec, comme chaque jour, Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Avec Charles Cros, facile de transcender les catégories et de lui accrocher au revers du veston la médaille des médailles pour ses belles inventions. Poète maudit, non, nous l'avons dit à propos de l'édition de Goffred Santal en 1873, par avance oublié. Le grand homme, il en a trop fait dans sa courte vie, longue de 46 années. Inventeur ou créateur, poète symboliste, avant l'heure, zutiste et vilain bonhomme, sa mémoire s'accroche à l'aude que nous n'oublions pas son berceau natal, chagrine des intempéries d'automne avec leur flot de victimes. L'aude, le département, la grâce, son banquet du livre, Verdier, l'éditeur, et puis à l'autre bout, l'inventeur, c'est Charles Cros qui pose les bases du phonographe. L'inventeur est toujours créateur, c'est René Farabée, initiateur des ateliers de création radiophonique, à qui nous dédions ce poème, car nous sommes sur ces ondes-ci, toujours dans les ondes siennes, les lointains proches, comment l'expliquer? Ben justement, sans l'expliquer, par sensation, et fabrique atelier de création. René Farabée est mort en juin 2017, et à l'occasion de la publication nouvelle de certains de ses livres, un hommage lui est rendu. Chanson des sculpteurs. Proclamons les principes de l'art, que tout le monde s'épanche. Le marbre est une matière à part, il n'y en a pas de plus blanche. Proclamons les principes de l'art, que personne ne bouge. La terre glaise, c'est comme le homard, quand c'est cuit, c'est rouge. Proclamons les principes de l'art, que tout le monde s'amuse. Le bronze dur, à moins que par hasard, pour des cloches on ne l'use. Proclamons les principes de l'art, que tout le monde se saoule, quoique le plat soit un peu blafard, il coule bien dans le moule. Proclamons le principe de l'art, que tout le monde s'entende, les contours des femmes c'est du lard, la chair c'est de la viande. Ah oui, ça Charles Cros, faut pas le retenir, c'est son côté, son amour pour les airs populaires. Mon âme est comme un ciel sans borne, elle a des immensités mornes et d'innombrables soleils clairs. Aussi malgré le mal ma vie, de tant de diamants ravis, se mirent au ruisseau de mes vers. Je dirai donc en ces paroles, mes visions qu'on croyait folles, ma réponse au monde lointain qui nous adressait leurs messages, éclairs incompris de nos sages et qui, lassés, se sont éteints. Dans ma recherche coutumière, tous les secrets de la lumière, tous les mystères du cerveau, j'ai tout fouillé, j'ai su tout dire, faire pleurer et faire rire, et montrer le monde nouveau. J'ai voulu que les tons, la grâce, tout ce que reflète une glace, l'ivresse d'un bal d'opéra, les soirs de rubis, l'ombre verte, se fixe sur la plaque verte. Je l'ai voulu, cela sera. Dit le grand buveur d'absinthe Charles Cros.
Merci Jacques Bonnafé pour la suite de vos lectures de textes de Charles Cros.